C'est quand la dernière fois que vous avez entendu de la musique populaire en allumant votre radio? C'est quand Michael Jackson était encore noir? The Cure?
J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir si ta joyeuse bande de copains de Camden fait la une.
Vous écoutez les infos?
T'as un problème avec les infos aussi?
Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu, 102.2.
Bonjour.
Les Canu Info,
Canu Info
du mercredi.
Il est 19h08, dis donc.
Ouais, et c'est l'heure du Canu Info.
Ce soir, eh bien, écoutez, les toubibs médiatiques n'hésitent pas à en balancer des couches dans le racisme et l'antisémitisme.
Ensuite, on parlera de plein de proches de Sarkozy au gouvernement.
Mort de Mahamadou Fofana après une rencontre avec les flics.
Ensuite, on ira en Colombie où la mobilisation contre les violences policières a lieu.
Les fraudeurs de la CAF, décidément, ce gouvernement nous en rappelle d'autres précédents. En tout cas, ils sont une nouvelle fois dans le viseur, les fraudeurs de la CAF.
Et ensuite, on parlera de l'air ambiant qui est respirable et qui devient un marché. Et
bien l'air sûr, ambiant n'est pas respirable, c'est l'air respirable qui est rare et donc qui devient ambiant.
Ouais, voilà, bon. C'est pas moi qui ai fait le titre. Et ouais, devinez qui est-ce qui se positionne sur le marché? Eh bien, c'est Veolia et Suez.
Et puis, ça sera l'heure de la rubrique « Il faut que ça se sache », avec des histoires de Malte, de Lesbos et encore des histoires de bateaux. Enfin, vous nous connaissez, on ressasse un peu, mais il y a en même temps toujours des petits nouveaux trucs à raconter, quoi qu'il advienne.
Et on finira par un agenda.
Ouais.
Et on va commencer par des brèves.
Info.
Et à toi.
Ah oui, alors écoutez, c'est un titre que j'ai trouvé dans, je ne me rappelle plus, peut-être c'est Le Monde. Le gouvernement libanais n'est toujours pas constitué, malgré les appels de la France. Le sous-titre de l'article, c'est « Emmanuel Macron avait annoncé le 1er septembre l'engagement des partis libanais pour la formation d'un gouvernement dans les 15 jours. La France regrette mercredi cet échec ». Alors, je veux pas du tout défendre le gang de truands qui gouverne le Liban et qui s'accroche à ses places avec bec et ongles. Mais enfin, est-ce que vous imaginez un titre du Monde qui dirait, par exemple, « Un violeur toujours patron des polices françaises, malgré les appels répétés du Burkina Faso. Rockmark Christian Caboret, vous savez même pas qui c'est, mais c'est le président du Burkina, avait annoncé le 1er septembre l'engagement du gouvernement français pour une politique résolument en faveur du droit des femmes. Le Burkina regrette mercredi cette situation. »
Ensuite, on va faire un tour du côté de la Commission européenne qui a fait une grosse annonce et c'est lors de son premier discours qu'Ursula von der Leyen a annoncé sa volonté d'abolir le règlement Dublin pour le remplacer par un autre système de gouvernance européen. On le rappelle très rapidement, le règlement Dublin, c'est ce qui fait que si vous déposez une demande d'asile, vous devez la déposer dans le premier territoire européen, dans le premier pays européen dans lequel vous avez mis le pied et vous avez été recensé. Sans ça, vous serez refusé et on vous demandera d'aller déposer dans ce pays-là. Elle a déclaré « Je peux annoncer que nous allons abolir le règlement de Dublin et le remplacer par un nouveau système européen de gouvernance de la migration. Il y aura un nouveau mécanisme fort de solidarité. Il y aura des structures communes pour l'asile et le retour. Et il y aura un nouveau mécanisme fort de solidarité. » Voilà.
Quand elle dit solidarité, ça ne veut pas dire solidarité entre les êtres humains.
C'est-à-dire que c'est solidarité entre les pays. Et c'est pour ça qu'elle parle d'ailleurs de structures communes. Ouais. Entre l'asile et le retour. Elle n'a pas oublié cette partie-là. Bien évidemment, dans son discours, elle a évoqué le camp de Moria. Et bon, pour le moment, évidemment, rien de concret. On ne sait pas quelle orientation prendra ce nouveau dispositif, même si on en a un peu une petite idée. Car Dublin était tellement arrivé à bout de souffle que ce n'était plus seulement les associations qui se préoccupent du sort des personnes qui le décriaient, mais également les politiques qui souhaitaient voir un système de reconduite à la frontière plus efficace. Affaire à suivre, donc.
Et écoutez, c'est encore un titre que j'ai trouvé cette fois dans 20 minutes. Ça dit « Coronavirus, 2 points, la pandémie pourrait coûter 14 milliards de dollars au foot mondial », estime la FIFA.
Wow.
« Plus de 150 pays ont déjà sollicité le plan d'aide de la Fédération internationale qui n'est doté que de 1 milliard et demi de dollars. »
Oh, les pauvres.
Alors, bon, je dois dire, j'ai pas lu l'article, hein. Mais je me suis dit que en diminuant de 1% le salaire des quelques joueurs les plus riches pendant, disons, 15 jours, les 14 milliards devraient être très vite récupérés. Alors j'imagine quand même que c'est pas du tout ce qui va se passer et que les spectateurs, les fans, les supporters vont plutôt mettre la main à la poche d'une manière ou d'une autre. Hein, je sais pas encore de quelle manière, mais ils vont trouver quelque chose. Comme ils le font déjà de toute façon tout le temps, toute l'année et toutes les autres années. Et puis il y aura sans doute aussi un petit peu des aides publiques. Parce que le foot, finalement, c'est comme le reste du monde. Quand il faut trouver du pognon, c'est toujours mieux de le prendre dans la poche des pauvres.
Canu Info. Du mercredi.
Et on va parler maintenant racisme et antisémitisme, c'est ça, chez les toubibs médiatiques. Alors, par exemple, on peut revenir sur le plateau en direct de la chaîne C8 lundi soir où l'un des porte-parole des personnels de santé opposés au port obligatoire du masque, c'était Patrick Bellier, donc, qu'on connaît aussi comme pneumologue à Sainte-Foy-les-Lyon, qui a tranquillement lancé un salut nazi. On ne comprend pas très bien le contexte, puisqu'il était invité à propos des masques, justement, lui-même ne l'explique pas et se contente de dire tout aussi banalement qu'il a un peu honte d'avoir fait ça. Le geste n'a pas été diffusé à l'antenne et quand un spectateur s'est indigné, Patrick Bellier a été sommé de quitter le plateau. Le show TV en a bien sûr fait son beurre. On passera les détails de l'invitation du spectateur témoin et le post de la vidéo sur le compte Twitter de Cyril Hanouna. Toujours est-il que ce fameux Patrick Bellier, déjà douteux, devient carrément puant. Il doit passer vendredi d'ailleurs devant le conseil départemental de l'Ordre des médecins du Rhône pour ne pas avoir porté le masque lors de ses consultations et pour avoir refusé des patients masqués. Ça paraît tout d'un coup bien peu de choses hein, par rapport à ce qu'il peut se permettre sur un plateau télé. Alors en parlant de show télévisuel, en voilà un autre qui a fait sa rentrée médiatique sur ses grands chevaux, c'est Didier Raoult. Longuement interviewé sur CNews lundi, 40 minutes, c'est dire si c'est long, d'autant qu'après...
En même temps, quand on est à regarder CNews, tout paraît long.
Oui, alors j'en ai écouté une grande partie, donc c'est vraiment très long.
Ah ouais, les reporters de l'extrême dans le Canu Info du mercredi.
Un suivi psychologique va être organisé.
Donc il nous dit que, tranquillement, qu'effectivement à Marseille, il y a une recrudescence des cas de Covid. Pour lui, la cause est évidente. Il ne mentionne pas du tout le déconfinement, les déplacements de population en France, le tourisme estival, mais plutôt un virus mutant qui venait d'Afrique du Nord en juillet. Et donc, il poursuit, je cite, « Une bouffée de ce virus est arrivée avec les bateaux qui font l'aller-retour avec le Maghreb. » Ensuite de se vanter, on est pratiquement les seuls à avoir ces données, mais parfaitement vérifiables puisque c'est online et tout le monde peut regarder ça sur notre site. Après vérification, justement, du site d'info marocain Yabiladi, on se rappelle que, justement, à Marseille, il y a de liaisons maritimes que pour l'Algérie et la Tunisie. L'Algérie, elle a maintenu ses frontières fermées cet été. Il n'y a donc pas eu de transhumance estivale entre des Algériens en France et inversement. Seules quelques ferries ont pu faire la traversée et c'était plutôt pour le rapatriement des Français qui étaient partis en vacances en Algérie. Alors pour la Tunisie, le cas, c'est encore plus déroutant puisque la Tunisie avait réussi à éteindre l'épidémie dès le mois de mai bien plus efficacement que la France. Et donc, en juillet, c'est plutôt la Tunisie qui s'inquiétait de l'importation des cas français et a suspendu, en prévention, le 11 juillet, les liaisons maritimes de Corsica-Linéa suite à la découverte de plusieurs cas positifs parmi les membres de l'équipage. C'est finalement fin août que la situation épidémiologique en Tunisie s'est emballée et c'est ce qui a poussé les autorités françaises à exiger un test PCR de 72 heures pour tous les passagers des bateaux en provenance de la Tunisie. Mais c'était seulement à partir du 22 août et pas donc le mois de juillet. Puis ça n'excuse pas tous les autres endroits du monde où il y a des cas positifs qui viennent en France. Par ailleurs, le virus mutant dont Raoult parle, le même site Yabiladi, nous rappelle que la souche du virus qui circule majoritairement en France a été détectée en mars dernier. Et elle n'est donc pas réellement nouvelle. Par ailleurs, pour Raoult, l'autre facteur de propagation du virus à Marseille, ça a été la communauté juive et rome. Je cite, « On sait qu'à Marseille, les mariages chez les roms ou les fêtes de la communauté juive ont été des sources de contagion extrêmement importantes. » Alors, c'est une affirmation assez étonnante, qui est aussi difficilement vérifiable, mais qui, mais oui, et qui semble pourtant anecdotique quand on sait le nombre de Roms à Marseille, qui sont environ 1000. Donc, ça serait beaucoup leur mettre sur le dos. On est aussi surpris d'apprendre que les Juifs et les Roms ont été les seuls à se rassembler cet été. Voilà.
À Marseille, bon, d'autant plus.
Oui, voilà. Donc ça nous évoque un peu le Moyen-Âge, hein, quand on mettait la peste noire sur le dos des Juifs et des sorcières. Bon là, c'est un peu pareil, c'est les Juifs et les Arabes, quoi. On apprend aussi, c'est pas anodin non plus dans cette interview, que Raoult participera à un meeting du Front Populaire, donc qui s'appelle comme ça, mais c'est pas ce qu'on croit.
Ah bon?
Non, puisque c'est organisé par Onfray en compagnie de diverses personnalités d'extrême droite. Voilà. Bref, corrélation n'est pas causalité, peut-être qu'il n'y a aucun rapport, mais seuls deux exemples affligeants entre complotisme et racisme racisme antisémite et nazisme.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Alors, eh bien, depuis le dernier remaniement que le gouvernement, on le sait, hein, c'est depuis ce dernier remaniement, pardon, que le gouvernement prend un sérieux virage droitier. Et alors, droitier, vous allez voir, pas sur l'économie, parce que ça faisait quand même un petit moment qu'on y était, mais on est au-delà du simple symbole de la nomination de Darmanin, qui était proche et qui est toujours proche de Sarkozy, comme Premier ministre, avec... Avec son arrivée, on assiste au grand retour du thème de l'insécurité et en version 2 de l'insécurité...
T'as quand même dit que Darmanin était Premier ministre, là, tout de suite.
J'ai dit Premier ministre. Ah, pardon, ministre de l'Intérieur. Ah. Excusez-moi. Le Premier ministre, j'en parle juste après. Et donc, voilà, donc on revient sur le thème de l'insécurité, autrement modernisé dans le langage des politiques par ce terme d'ensauvagement. On se rappelle quand même que, en général, ce thème va croître au fur et à mesure que l'élection présidentielle avance, c'est-à-dire qu'on en est là un peu moins de 2 ans. Thème qu'ici on enlève la partie maintien de l'ordre, hein, où quand même on s'était quand même bien présent pendant ce quinquennat, n'était pas très dominant quand même avant ça. Mais là, quand même, avec exemple flagrant de grand retour, on avait quand même l'immense descente policière dans le quartier du Mistral à Grenoble, suite à la diffusion, j'imagine que vous n'êtes pas passé au travers, sur les réseaux sociaux, d'une vidéo où on voyait des gens cagoulés avec des armes factices, mais que Darmanin a décrété qu'elle ne l'était pas, avec devant une table comme ça, et avec des bonbons et des stupéfiants. Et donc voilà, donc là, grosse, le lendemain, mais énorme descente dans le quartier du Mistral. Bon, en fait, il s'est avéré que c'était le tournage d'un clip de rap et que le rappeur en question s'est fait un peu sa promo et sur les réseaux sociaux et a montré un bout de ça en disant que ça allait sûrement un peu en parler. Je pense qu'il ne s'attendait pas non plus à ça, à ce point-là. Pour continuer dans la lancée, eh bien, c'est Camille Pascal qui vient d'être nommée auprès du Premier ministre. Alors, si vous ne savez pas qui est Camille Pascal comme moi, c'est assez facile, comme il vient d'être nommé, de trouver un peu son pédigré. Alors, c'est un proche de Nicolas Sarkozy, hein, ils sont régulièrement au téléphone, et qui a un temps officié dans le journal très droitier Valeurs Actuelles. Comme chroniqueur, et dans son palmarès on note aussi son rôle de conseiller auprès de Laurent Wauquiez. Voilà, alors tout ça pour dire que rien ne se profile de bon à l'horizon de cette fin de quinquennat. Ouais.
Radio Canu. 102.2.
La plus rebelle des radios.
Info. Bon, une histoire tristement banale dans les Canu Info et dans le pays dans lequel on vit. Ça se passe dimanche soir et ça commence avec une dame qui voit par sa fenêtre 5 types qui font des trucs avec une moto, qui s'agitent autour de la moto, qui la chargent sur une remorque. Elle trouve ça chelou, elle appelle les flics. Quand les flics arrivent, les 5 types se sont séparés, la police prend en chasse un fourgon. Quelques heures plus tard, le conducteur du fourgon est mort, noyé. D'après les flics et le procureur et la préfecture, il a sauté dans la Seine parce qu'il avait peur de la police, parce que, bien sûr, c'était un criminel. Un criminel comme n'importe quelle personne qui trouve la mort après une rencontre avec la police, sans besoin d'attendre aucune sorte d'enquête pour décider que c'était un criminel et qu'il avait forcément peur de la police. Alors là, il se trouve que le gars en question est un cousin de Assa Traoré. Il s'appelle Mahamadou Fofana. Et comme c'est un cousin d'Assa Traoré, bah il se fait que la famille a du répondant, des réseaux, une audience et un avocat. Ce qui lui permet à la famille tout de suite de se demander, par exemple, pourquoi est-ce que l'autopsie de Mahamadou fait mention d'une abrasure à la tête. Alors une abrasure, ça veut dire que c'est un endroit où la tête a été cognée, alors qu'il est censé avoir juste sauté d'un pont directement dans l'eau. Et de se demander aussi pourquoi le procureur, quand il a résumé les conclusions de l'autopsie, n'a bizarrement pas mentionné cette abrasure. La famille a du coup lancé un appel à témoignages pour savoir ce qui s'est réellement passé dimanche soir. Parce que oui, dans notre pays, quand un homme noir meurt suite à une rencontre avec les flics, bizarrement, même si on n'avait pas par ailleurs l'indice, en l'occurrence la brasure à la tête, de mensonge dans la version policière, eh bien bizarrement, on a toujours une sorte de méfiance. Allez savoir pourquoi.
Alors en ce moment, en Colombie, il y a une grosse mobilisation contre les violences policières. L'événement catalyseur, ça a été mercredi dernier la mort de Javier Ordonez, à 43 ans, à Bogota. Son arrestation est filmée par des témoins. On peut voir deux agents l'immobilisant au sol, lui assénant une série de décharges électriques. Lui, il les implore d'arrêter. Il est ensuite emmené dans un commissariat où il a été victime de, je cite, complications médicales, selon la police, avant de décéder peu après à l'hôpital. Depuis, les manifs spontanés et émeutes ont surgi dans la capitale et dans d'autres grandes villes colombiennes. La répression s'est faite encore plus forte avec 13 manifestants tués et plusieurs dizaines de blessés par balle. Alors, il y a pas moins, pendant toutes ces émeutes, pas moins de 53 postes de police qui ont été saccagés mercredi dernier. L'un d'entre eux, dans le quartier de Soledad, a été transformé en bibliothèque populaire et redécoré. Vendredi, pensant peut-être rétablir le calme, le ministre de la Défense, Carlos Holmes Trujillo, a demandé pardon à sa population. Malgré un geste incroyable qui témoigne d'un fort sentiment de justice et de respect, on a toujours appris que peu importe les bêtises, l'essentiel c'est de demander pardon quand même. Malgré ce geste du ministre de la Défense, les manifestations ont repris vendredi soir. Et parmi les slogans, je cite, on trouve « Nous sommes massacrés, ce pardon n'est qu'un mensonge auquel nous ne croyons pas. Que vaut un pardon quand on vous tire dans le dos ?» Le président Ivan Duque.
Les gens sont exigeants.
Bah oui, un pardon, c'est quand même la moindre. Enfin, c'est le mieux qu'on puisse demander. Alors, le président, lui, il a dit regretter. Donc, il s'appelle Ivan Duque. Il a dit regretter ces actes de vandalisme et de violence, donc de la population, pas de la police, on est d'accord. Et il a quand même promis d'enquêter sur les abus présumés des forces de l'ordre. On peut souligner l'ironie de présumer, parce qu'il y a quand même des preuves assez flagrantes, non pas forcément de la mort immédiate de la personne, mais en tout cas des coups et blessures qui auraient pu la provoquer. Donc une enquête interne et une autre pénale ont été ouvertes. Pour l'instant, 7 policiers sont suspendus. Malgré donc des promesses, des excuses quémandées, ça n'a pas empêché le gouvernement d'appeler en renfort 2000 policiers et militaires dans la capitale. La maire de Bogota, Claudia López, elle s'insurge et dénonce un massacre des jeunes de sa ville. Mais c'est la seule à s'opposer, elle donne un peu l'impression de pisser dans un violon. Les Colombiens avaient de quoi s'insurger. L'assassinat de Javier Ordóñez faisait suite à une série de tabassages, parfois à mort, des personnes n'ayant pas respecté le confinement. Et ça, c'était au mois de mai dernier.
Canu Info. Du mercredi.
Et, comme je le disais juste avant, là, il y avait quand même cette histoire de gouvernement qui prend un virage très droitier. En général, et ben voilà, bien évidemment, le thème qui vient se mettre dans la roue de l'insécurité, eh bien, ce sont les profiteurs et profiteuses des prestations sociales. C'est bien connu. Et c'est donc avec un formidable tempo que le directeur de la CNAF, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, qui est un peu à la tête de toutes les CAF de France, a annoncé revoir en profondeur le système de détection et de contrôle des allocataires. Alors le gars choisit donc le moment où un grand nombre de personnes vont se retrouver au chômage et qu'une grande partie d'entre elles et eux vont se retrouver soit après, soit directement au RSA pour renforcer ces contrôles et pointer du doigt encore un peu plus celui ou celle qui galère déjà au quotidien. Alors sa mesure phare, c'est, attention, la création de, je cite, brigades mobiles. Pour celles et ceux qui viennent d'allumer leur poste de radio, je ne suis pas en train de parler de manif, mais bien de la caisse des allocations familiales. Ces brigades seront dans un premier temps composés d'une trentaine de personnes. Ce seront des, je cite, contrôleurs hyper spécialisés, comme ils les nomment. Ils seront répartis en deux groupes, deux équipes, qui pourront parcourir tout le territoire national. Petit hic dans tout ça, crise oblige, la CAF ne va pas avoir d'augmentation de budget pour ça. Hein. Donc,
ce sera du bénévolat peut-être. Les scouts.
C'est vrai que si ça se trouve,
de la CAF.
Ou alors ça sera juste enlevé de nourrir ça.
Et ben, non, ça va être que, en gros, ils vont fonctionner sur les 700 agents et agentes déjà existants. C'est 30 baqueux de la CAF. Alors pour l'instant, en phase test, ce dispositif pourra bien sûr s'agrandir s'il s'avère efficace. Les équipes augmentées et donc des effectifs encore plus restreints sur le terrain, avec comme conséquence directe une baisse de la qualité de service pour les usagers, puisqu'ils seront donc amputés des quelques agents qui restaient encore un peu sur le terrain et qui auraient dû accompagner et orienter au mieux les usagers et usagères, ce qui quand même était déjà très très loin d'être le cas actuellement quand même. Ensuite, de manière plus technique.
J'étais en train de me dire que bizarrement, il n'y a pas de brigade pour courir après les cas de non-recours, c'est-à-dire les gens qui auraient droit à des prestations mais qui ne les demandent pas.
Je vais en parler après. Mais oui, complètement. Et en tout cas, de manière plus technique, le directeur souhaite profiter du dispositif de ressources mutualisées. Alors bon, là, c'est sacrément technique, hein, quand même. Je n'ai pas compris tous les tenants et aboutissants, mais en gros, c'est un espèce de dispositif qui fait que les administrations ont accès plus facilement aux ressources des personnes, facilité notamment avec la mesure de l'impôt à la source. Et également au fait que, par exemple, les APL maintenant sont évalués sur les 12 derniers mois et plus sur les 2 ans, l'avant-année dernière, comme c'était le cas avant. Ce qui est quand même plutôt un avantage, mais ils arrivent toujours à retourner leur avantage aussi pour eux. Et donc, la CAF va pouvoir fournir des formulaires pré-remplis, évitant, je cite, nombre sources importantes d'erreurs et de fraude, comme le dit si bien ce Vincent Mazoric, qui est le président donc de la CNAF. Alors oui, il met dans le même panier les gens qui font des erreurs et les gens qui, vous voyez, seraient des super méchants fraudeurs qui frauderaient des millions et des millions à la CAF. Il semble que ce Vincent n'ait jamais eu affaire à la CAF de l'autre côté de la barricade, là, vous voyez. Même si des allocataires nous écoutent, il est quasiment impossible de ne pas avoir eu ce qu'on appelle des trop perçus, suite à des erreurs venant soit de la CAF, soit de l'usager, mais quand on connaît un peu la complexité des démarches et l'illisibilité des consignes, une erreur quand même est assez vite arrivée. Sauf que quand on est aux minima sociaux, c'est évident que ces trop perçus de quelques centaines d'euros sont assez lourds à rembourser, et quand on vous déduit ça du RSA, ça commence à être sacrément la galère. Alors, bien sûr, on nous parle des vilains marchands de sommeil qui se font plein de thunes sur le dos des galériens. C'est un peu l'exemple quand il parle des fraudeurs et fraudeuses de la CAF, qui est censé un peu mettre tout le monde du bon côté en disant « Ah, regardez, nous on fait ça, c'est pour les marchands de sommeil, qui c'est vrai, sont des ordures. » Mais en gros, on sait que c'est pas ces personnes-là qui vont être principalement concernées, ou si, mais en tout cas, tout plein d'autres personnes. Et on sait que la cible de contrôle sera aussi cette mère isolée qui lui a peut-être... qui n'est peut-être pas si isolé que ça et qui se laisse un peu de temps pour se déclarer en couple auprès de la CAF, un peu comme, je sais pas moi, par exemple, une personne qui paye ses impôts et qui va essayer par tous les moyens de réduire sa cotisation à l'impôt. Le site Dossier Familial nous
existe
Non, c'est un nom, je crois, je sais plus c'est quoi. Le site Dossier Familial nous rappelle que la sénatrice centriste Nathalie Goulet, chargée en 2009 par Édouard Philippe d'évaluer en commission le coût de la fraude aux prestations sociales, avait déclaré, je cite, accrochez-vous bien, cette mission répond à la colère des gilets jaunes. Attention, <Ouais. rire> qui en ont assez de voir des gens qui ne se lèvent pas le matin gagner plus qu'eux et rouler en Mercedes. Voilà. Alors, comment essayer de se mettre dans la poche, c'est de ceux qu'on a matraqués sur le pavé quelques mois plus tôt. Un autre article, cette fois-ci dans Bastamag de 2017, indique que les chiffres sur les contrôles qui ont eu lieu en 2016 sont assez minables. Sur 12,8 millions d'allocataires à la CAF, donc c'est en 2016, si ça se trouve, ça a augmenté. Les chiffres n'ont pas dû non plus passer du tout au tout. 7,2 millions ont été contrôlés, soit plus d'un allocataire sur deux. C'est possible, il précise sur le site que, en fait, il y a tout un tas de contrôles où, quand on est allocataire, on ne s'en rend même pas compte. C'est-à-dire qu'il y a des espèces de trucs informatiques où ils regardent et ils se disent bon, bah là, en fait, c'est bon, il n'y a rien de louche, mais du coup, c'est quand même un contrôle. Mais qu'au final, les cas de fraude détectés par la CAF représentent seulement 0,36% de la population des allocataires. Autant dire qu'il faut mettre le paquet avec la brigade. À savoir que suivant le type de contrôle auquel on a affaire avec la CAF, on peut vous couper les vivres le temps de la procédure avant que vous entamiez des recours ou quoi que ce soit. Pour rappel, la fraude fiscale est estimée... Alors la fraude fiscale, hein, on parle de ceux qui font de l'optimisation fiscale, par exemple, est estimée entre 60 et 80 milliards d'euros. La fraude à la CAF, quant à elle, est estimée entre 324 millions d'euros et 2,3 milliards pour les plus extrêmes. C'est-à-dire que le président de la CNAF, lui, parle plutôt il dit, voilà, les chiffres officiels, c'est 324 millions, mais comme c'est un truc qui est caché, c'est dur à estimer. Enfin bon, il y a quand même des outils qui existent pour ça, mais lui, il n'en parle pas. Et donc, il se dit, allez, on va parler de 2,3 milliards d'euros. Même là, quand on parle de 2,3 milliards d'euros, quand on le met en balance avec les 60 et 80 milliards d'euros de la fraude fiscale, c'est quand même ridicule. Chiffre à mettre, donc t'en parlais juste avant, encore plus en parallèle avec le taux de non-recours qui était évalué, alors les derniers chiffres que j'ai trouvés datent de 2018, mais c'est pareil, on imagine que ils n'ont pas été divisés par 10, à 5 milliards juste pour le RSA et un peu moins, donc on était autour de 4,5 milliards à peu près pour les allocations familiales et les APL. Donc on est à moins de 10 milliards de non-recours, ce qui est quand même bien au-dessus des soi-disant, enfin en tout cas des fraudes évaluées. Et pour finir, alors bon, si vous nous écoutez et que vous êtes en litige avec la CAF, sachez que vous pouvez vous tourner vers l'association ADUCAF, ADUCAF, qui est l'association des usagers de la CAF et qui est complètement indépendante de la CAF et qui vous met en relation avec des juristes. Vous tapez ça dans un moteur de recherche et vous devrez trouver leur contact.
Canu Info. Du mercredi. To believe everything I do.
America. People keep on asking me if I want to kick some. But I ain't got none. Don't want to take it away from me. You gotta go on first one. Want to kick some now. They keep on asking me. But I ain't got none. Somebody take it from me.
Toots and the Maytals, Funky Kingston. I miss kind of miss Kingston right now.
Yeah, man, you sound like you're born in Castle City, man. With that accent, man.
Donc, on écoutait Toots and the Maytals, Funky Kingston, parce que Toots est mort ce week-end.
Ah bah c'est à moi, dites donc. Alors, figurez-vous que je vais vous parler de cette bulle d'air qui a été installée dans la cour de récré d'une école de la ville de Poissy. Une bulle d'air pure, et oui, et oui. Un piège à polluants, en fait, conçu par Suez et la société Fermentalg, qui a été installé dans un coin de la cour de cette école. L'appareil recycle l'air ambiant et il va être testé pendant un an. C'est donc l'école Victor Hugo à Poissy. Et 3 mètres de haut, 5 mètres de large, un gros filtre, c'est dans un coin de la cour de récré, opérationnel depuis la rentrée, il génère une bulle d'air pur.
C'est un toboggan ?
Alors non, c'est pas exactement... Ah, si, en fait, on sait, parce qu'il y a un périmètre d'environ 10 mètres carrés. Alors, 10 mètres carrés, vous voyez, bien sûr, vous êtes chez vous, vous voyez pas ce studio, mais ça doit être à peu près ça. C'est-à-dire qu'on va pas y mettre 3 classes de gamins, hein. On va plutôt en mettre à moitié d'une et encore, ils seront serrés. Donc 10 mètres carrés qui sont délimités sur le sol par des formes colorées, parce que ça fait plaisir de respirer de l'air pur. Et là, les enfants disposent d'un air nettoyé en permanence. Je me base entièrement sur un article de West France, mais qui est enthousiaste. Alors West France, c'est pas les seuls enthousiastes, hein, puisque la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a tweeté, toute contente, la région présentée aujourd'hui combinaire, alors avec une petite apostrophe au milieu et puis AIR à la fin, un système inédit en France de purification de l'air installé dans une cour d'école primaire à Poissy, développé par Suez dans le cadre de notre programme Changer d'air. Alors tout ça, bon, je vous dis pas toutes les majuscules, les apostrophes, les hashtags, les machins, parce que c'est trop chiant, le langage Twitter, quoi. Notre programme Changer d'air contre toutes les pollutions. Valérie Pécresse, bon, trop trop contente. La machine a donc été fabriquée par Suez et la société Fermentalg. La machine, le machin, disons, coûte 250 000 euros. L'appareil, wow. pour les 10 mètres d'air pur. Hein. Il est financé à part égale par la région Île-de-France et par Suez. Qui est trop sympa, Suez.
Qui se fait un max de pub.
Et il va être testé pendant un an. Il est capable, selon Suez... Mais en même temps, c'est ce qu'il est capable de faire en labo. Alors là, il va falloir maintenant tester ce que ça donne dans la vraie vie, dans une vraie cour de récré. Il est capable d'absorber un volume de particules fines, de dioxyde d'azote et de composés organiques volatiles équivalent à ce que produisent entre 300 et 500 véhicules sur un seul trajet francilien moyen.
Enfin, en même temps, il n'y a pas toutes ces voitures dans une cour de récré.
Oh, non, mais elles sont autour, tu sais, parce que quand même, quand on est en Île-de-France, en vrai, ça va, des voitures, il y en a. Alors... Comment, bon, ça je vais vous lire un peu vite parce que c'est technique, puis on s'en branle. L'air aspiré est ionisé, puis dirigé vers les filtres à charbon qui captent la pollution et la restituent à des micro-algues. Ces dernières fabriquent de l'oxygène, grandissent, sont évacuées dans le réseau d'assainissement. Le cycle s'achève avec la transformation de ces micro-algues en biométhane dans des stations d'épuration. La machine est d'autant plus super qu'il y a une petite vitre par laquelle on peut observer les micro-algues qui travaillent, entre guillemets.
Avec ton ton enjoué, je pense que si Suez, Veolia nous écoute, ils vont nous embaucher.
Attends, ils vont me faire un pot en or pour aller bosser chez eux. Alors Suez n'est pas seul sur le créneau, puisque son rival Veolia a lui aussi mis au point un purificateur testé dans deux écoles de Rincy. Cette fois-ci, c'est en Seine-Saint-Denis. On a installé, alors cette fois-ci, non pas dans la cour de récré, mais dans les salles de classe, des systèmes capables de prendre l'air à l'extérieur de le filtrer pour enlever les particules et ensuite de le nettoyer pour enlever les composés chimiques. Et ensuite, cet air est soufflé dans une salle de classe pour avoir en permanence de l'air pur qui rentre.
Alors moi, j'ai une petite question. Tu me diras si t'as la réponse, mais par exemple, en ce moment, en période de Covid, le truc d'air soufflé, quand même, c'est quand même plutôt méga déconseillé. Est-ce qu'ils ont communiqué sur le fait qu'ils filtrent ce fameux coronavirus ?
Alors non. Là, ils enlèvent, qu'est-ce qu'on a dit, les composés chimiques, les gaz lourds, les saloperies, les particules fines, les machins comme ça. Le virus, ils n'en parlent pas. Alors va savoir, peut-être les micro-algues font quand même quelque chose avec, mais enfin, c'est pas sûr. Mais ceci dit, l'air soufflé, c'est interdit dans les trucs où ils prennent de l'air dans une pièce, ils la soufflent dans la pièce suivante après l'avoir refroidi, là, mais...
Non, même une ventilation...
Ouais, bon, d'accord. Non, alors, ils s'en foutent. Mais, malgré le fait qu'ils s'en foutent, on peut se dire que ces grands groupes, Suez, Veolia, tout ça, trop sympa. Alors, Suez, par exemple, c'est donc un grand groupe industriel qui s'occupe de l'environnement, de l'eau, des sols. C'est une sorte de machin écolo, Suez. Enfin, c'est aussi un machin un peu capitaliste parce que c'est, par exemple, le premier fournisseur d'eau privée au monde. 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors, l'article de West France continue. Un marché prometteur, tiens, tant que le problème n'aura pas été réglé à la source.
Oui.
En France, 75% des enfants respirent un air pollué. Et dans le monde, c'est 91% de la population mondiale qui respire un air qui contient un haut niveau de polluants. D'après l'UNICEF et l'Organisation mondiale de la santé. Alors bon, donc tout le monde ou à peu près respire des saloperies à grande échelle. Mais vous en faites pas, le grand capital va régler ce problème. Parce que c'est ça la magie du capitalisme. C'est qu'il crée des problèmes en faisant du pognon. Et après, qu'est-ce qu'il fait ? Il refait du pognon en proposant des solutions aux problèmes. Alors ici, pour l'instant, ces solutions sont offertes. C'est cadeau. Enfin, pas entièrement, parce que la région Île-de-France a quand même financé en partie. Mais dans les écoles de la banlieue parisienne, pour les enfants des pauvres. C'est Poissy, Seine-Saint-Denis, Yvelines, tout ça, blabla.
Il y a des taux de particules de ouf, quoi.
Des taux de particules de ouf, mais aussi, en fait, c'est quand même des gens qui sont sympas parce qu'ils vont d'abord vers les classes populaires. Mais une fois que ces machines auront fait leurs preuves, qu'on les aura bien testées sur les gamins des pauvres...
On aura bien vu s'il n'y avait pas de problème.
C'est ça. Elles vont se développer et cette fois, pas certain que ça reste tout le temps cadeau. À 250 000 balles, un truc qui purifie 10 mètres carrés. Bon, ils ne vont pas en installer gratos dans tous les appartements de la Seine-Saint-Denis et du monde entier. Alors oui, on nous prépare, un peu comme dans le pire des scénarios de science-fiction caricaturale, à payer l'air qu'on respire. Pour celles et ceux qui en ont les moyens, bien sûr. Pour les autres, on va continuer, mais de pire en pire, parce que l'air devient de pire en pire, on va respirer nos cancers. Et alors maintenant que l'air non pollué va devenir un marché, est-ce qu'on prendrait des paris sur les chances qu'on a d'avoir enfin des politiques efficaces pour réduire les pollutions atmosphériques ? Moi, je ne les prendrai pas les pas.
Et j'avoue que parler de science-fiction, quand on parle de pollution de l'air, en faisant cette émission avec tous des masques dans le studio, c'est un espèce de petit air angoissant quand même.
C'est clair.
Venir te prendre pour le moment, tu es à l'air disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à exploiter.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. C'est que les lois mises en place. C'est que les lois mises en place.
Contre la machine. Et c'est le site Time of Malta qui a publié, donc Time of Malta qui est un journal maltais, qui a publié une vidéo montrant les conditions de détention déplorables des migrants retenue sur le site militaire de sa fille à Malte. Alors eux, ils n'appellent pas ça retenue sur un site militaire de sa fille, ils appellent ça comme un centre de rétention, mais vous allez voir que c'est plus ardu que ça encore. La vidéo montre de jeunes hommes en caleçon serrés, pour ne pas dire entassés, dans des lits superposés, qui témoignent. Ils sont tous là à montrer un peu leurs dégâts corporels. Ils ont des gros problèmes de peau, parce qu'ils sont pas du tout, soignés dans le centre et tout. En 2019, Amnesty International évoquait des centaines de personnes réfugiées et migrantes qui ont été détenues de façon arbitraire dans des installations surpeuplées et dans des conditions indignes. Et dans ce rapport-là de 2019, Amnesty International pointait du doigt notamment ce centre-là de Safi. Deux personnes témoignent dans la vidéo, ils disent devenir fous, qu'ils ont déposé une demande d'asile il y a plus de 7 mois et qu'ils n'ont toujours pas eu de réponse, ou qu'en tout cas on ne leur a pas communiqué. Tous, parce que pour le coup c'est que des mecs, déclarent qu'ils ont aucun accès à un médecin s'ils sont malades ou quoi que ce soit, qu'ils sont coupés de tous leurs droits les plus élémentaires. Par exemple, ils savent pas du tout pour combien de temps ils sont ici et pour quel motif, ce qui est quand même dans l'Union européenne et quand même pour une partie du monde un peu le minimum du droit, c'est-à-dire de... Quand vous êtes en prison, vous êtes pour un temps donné et pour un motif qu'on peut juger valable ou pas, mais on vous délivre ce motif. Là, rien de tout ça.
Il faut que ça se sache.
Et on va revenir sur ce que deviennent les réfugiés de Lesbos après l'incendie de la semaine dernière. Donc, pour rappel, dans la nuit du mardi 8 septembre et jusqu'au matin du mercredi, donc on en parlait mercredi dernier, le camp de réfugiés de Moria, sur l'île de Lesbos, en Grèce, a pris feu. Il n'y a pas eu de morts, mais presque tout a été détruit. Près de 13 000 femmes, hommes et enfants se retrouvent à la rue, beaucoup ayant perdu toutes leurs affaires. Et depuis, la plupart est toujours sans abri. Certains sont allés dans les champs, d'autres sur des parkings de supermarchés en bord de mer. Une bonne partie s'est installée sur la route qui mène de Moria vers la côte dans des tentes, parfois sous de simples bâches. Et c'est une route qui est barrée de part et d'autre pour éviter les attaques d'extrême droite, soi-disant, mais aussi et surtout pour que personne ne sorte de cette zone. Donc presque quotidiennement depuis cette rue ont lieu des manifestations pour exiger une évacuation vers le continent. Des manifs qui sont réprimés à coups de gaz lacrymogène. L'État grec a d'abord mis en place une distribution chaotique d'eau et de nourriture, avant finalement de la déléguer aux ONG. Des attaques par des groupes de fascistes ont été recensées aussi contre des bénévoles médics et contre des réfugiés, d'après le site Europe Must Act, ce qui rappelle les multiples attaques de février-mars dernier, quand des groupes fascistes grecs de l'île et de Grèce continentale avaient été rejoints par quelques militants européens qui organisaient des véritables chasses à l'homme, allant jusqu'à incendier le camp de transit qui s'appelle Strige 2, dans le nord de l'île, qui avait été fermé fin janvier. L'état d'urgence a été proclamé sur l'île, mais aucun transfert conséquent de personnes vers le continent n'est envisagé. Pour le moment, seuls 400 mineurs non accompagnés ont été transportés vers la Grèce continentale et le centre provisoire érigé à la va-vite accueille 800 personnes. Mais c'est un camp de fortune que personne ne veut voir devenir un deuxième Moria surpeuplé, insalubre, et donc que tout le monde redoute, réfugiés et soutiens, d'autant que ceux qui l'ont déjà rejoint ne peuvent plus en sortir. Alors, certains y voient un prétexte idéal pour surtout accueillir personne. Par exemple, le préfet de l'Égée du Nord, Kostas Moutsouris, l'un des plus farouches opposants au projet du gouvernement d'ériger un camp fermé à cet endroit, qui a appelé entreprises et professionnels de Lesbos à se rassembler mardi après-midi pour réclamer la normalisation de la situation et l'éloignement des migrants de l'île à bord de bateaux. Donc ça tombe bien, c'est ce que veulent aussi les migrants, mais non, malgré tout, c'est pas ce que veut le gouvernement grec, et qui est au contraire plutôt favorable à ce que les réfugiés restent sur l'île, puisque le projet de centre contrôlé censé remplacer Moria revient sur le tapis après l'incendie. L'avis des réfugiés, les principaux concernés, tout le monde s'en fiche, et le ministre des Migrations, Notis Miratrachi, a déclaré ce week-end que ceux qui rêvent de quitter l'île, il faut qu'ils l'oublient.
Thank you. Canu Info.
Et c'est donc après 39 jours bloqués en mer Méditerranée que les 25 migrants bloqués sur le navire commercial du Merck Etienne ont pu débarquer en Sicile. L'ONG Méditerranéa qui affrète le marais de Giono a déclaré « Cela met fin à l'impasse la plus longue et la plus honteuse de l'histoire maritime européenne ». Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, autrement dit HCR, l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, mais aussi la Chambre internationale de la marine marchande, l'ICS, qui n'a pas non plus pour méga habitude de se prononcer sur ce genre de cas, avait lancé un appel pressant la semaine dernière pour le débarquement des 27 migrants, accusant les gouvernements européens d'être en contravention avec le droit international. Alors, malgré... malgré cette attente, pardon, ça s'est très mal imprimé, j'ai une bande blanche qui me cache des mots, du coup je les devine. Malgré cette attente et les difficultés qu'ont connues l'équipage du bateau qui n'était pas préparé pour ça et bien évidemment les rescapés à bord, la société qui a affrété le navire commercial a décrété sans l'ombre d'un doute que si c'était à refaire, il le referait.
Radio Canu. Du mercredi.
Waouh, c'est 54 et on s'apprête à finir, dites donc. Heureusement qu'on a commencé un peu en retard, autrement on finirait grave en avance.
Alors, eh ben on va rappeler le petit agenda de la semaine quand même. Demain, rendez-vous à 11h30 à la manufacture des tabacs. Pourquoi ? Pour un peu annoncer une rentrée sociale comme il se doit face à des mesures qui ne devraient pas tarder à arriver.
C'est ça. Ils le sont déjà pour le plan de relance, par exemple.
Voilà.
Les aides aux entreprises, tout ça.
C'est la manif syndicale de la rentrée. Avec cette fois-ci, il n'y a pas un truc clair qui s'en dégage. Il y a quand même toute une grosse série de saloperies contre lesquelles il faut faire cette manif. Si vous voulez le détail, allez voir par exemple sur Rebellion. Mais...
Oh, puis venez à la manif, puis on verra.
Mais c'est ça, venez à la manif, quoi. Et puis samedi, écoutez, il y aurait un rassemblement festif pour le départ, mais en réalité le départ sera un petit peu après, de la marche des sans-papiers, la grande marche nationale pour la régularisation de toutes et tous, la fermeture des centres de rétention, pour le logement de toutes les personnes à la rue et contre le racisme. Eh bien, cette marche partira de Marseille le 19 septembre et elle devrait arriver à Paris le 17 octobre. Alors, ma foi, pour célébrer le début, le 19 septembre, c'est-à-dire elle partira lundi, mais pour célébrer le début de cette marche, la coordination des sans-papiers de Lyon organise un rassemblement de 17h à 20h, place Guichard. C'est ouvert à toutes les personnes qui veulent s'informer et soutenir cette mobilisation. La marche passera quand même aussi à Lyon, ça sera le 2 octobre. Alors, à ce moment-là, elle arrivera de Grenoble et de Marseille. Une grande manif est prévue, pour le coup, le samedi 3 octobre à Lyon. Et les marcheurs et marcheuses reprendront leur route le 4 en direction de Paris. Des bus seront aussi organisés pour permettre à tous les gens qui veulent de se rendre à la grande manif finale du 17 octobre à Paris. Et puis, donc voilà, ce samedi, ça sera une occasion exceptionnelle de s'informer sur la mobilisation nationale des sans-papiers, sur les mobilisations à Lyon, mais aussi de se rencontrer en musique et de danser.
Et c'est 19h56 et c'est l'heure de la fin du Canu Info.
Et c'est l'heure de la fin du Canu Info. Alors moi je voulais quand même, avant qu'on coupe les micros, remercier les gens de la technique de nous avoir changé les casques. C'est hyper bien.
Tu dis ça parce que tu les avais engueulés la semaine dernière.
Non, je les avais engueulés il y a 15 jours et c'est vrai que la semaine dernière il s'était rien passé. Mais là, non, là, ça c'est.
Qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine pour que tu reviennes sur ce que tu dis?
Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai sur les oreilles un casque qui marche. Et ça. À Radio Canu, des fois on met un peu le temps, mais alors franchement, à la fin, on finit toujours par assurer.
Eh bien, en tout cas, après nous, vous allez retrouver l'émission Idées Noires. Et nous, on vous retrouve la semaine prochaine.
À bientôt.
Merci de nous avoir écoutés.
Ciao.